podcast France Culture.
Marcel Proust est devenu le grand Proust avec lenteur. À ses débuts, il publiait des articles mondains dans le Figaro, des nouvelles relativement fades, une traduction de Ruskin qui lui servait surtout à exposer sa conception de la lecture dans une longue préface. À la recherche du temps perdu a tout changé. C'est ce livre qui en a fait un géant et c'est ce qu'analyse Mathieu Garrigou-Lagrange dans « Sans oser le demander ».
Supposons qu'un homme n'ait lu qu'une seule œuvre, celle de Proust, on pourrait imaginer qu'il pourrait lui-même en passer à l'écriture à partir de cette œuvre. Il serait, pour ainsi dire, contaminé, illuminé, mais par lui-même, par sa propre existence, et par la puissance, la lucidité de son esprit tout à coup. Il s'écrirait que de choses autour de moi, en moi, que je n'avais pas aperçues. C'est en cela que Proust nous est familier.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous aviez toujours voulu le savoir, mais vous n'osiez pas le demander. Aujourd'hui, nous posons une question presque taboue. Mais pourquoi, au fond, À la recherche du temps perdu, est-il un roman culte ? C'est une émission proposée par Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Juliette Marcaillou, Marie Placé et Dalia. Quand on a vraiment aimé lire À la recherche du temps perdu, il y a des questions qu'on pose à contre-cœur, comme celle de la valeur littéraire de Marcel Proust. Mais il est vrai qu'il est toujours utile de re-questionner les idoles et d'interroger les évidences, comme celle de l'intérêt de cette œuvre, à la fois pour le lecteur, mais aussi pour l'histoire de la littérature. Ce sera aussi l'occasion de présenter cette œuvre qu'est La Recherche, pour raconter ce qu'elle est et comment elle a été reçue par ses contemporains, comme Cocteau par exemple, qui semble avoir bien aimé.
Qu'est-ce que vous pensez de l'œuvre de Proust ?
Oh bah, il y a des œuvres courtes qui paraissent longues. La longue œuvre de Proust me paraît courte. On voudrait lire et relire encore après la dernière ligne du temps retrouvé. Toute sa vie secrète est là, masquée de velours noir.
Et pour évoquer ce livre, rien moins que trois invités. À distance depuis le Québec d'abord, Thierry Lager, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de Proust Prix Goncourt, une émeute littéraire, paru en 2019 chez Gallimard. Vous avez aussi collaboré à l'édition de la Pléiade de Proust sous la direction de Jean-Yves Tadier. Et vous nous parlerez donc notamment de la réception de À la recherche du temps perdu au moment de la sortie des divers tomes. Avec nous également Michel Herman, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'université de Bourgogne, auteur d'une biographie de Proust publiée à la Table Ronde. Un éditeur où vous avez également fait paraître Bottin Proust. Proustien, sur les lieux et les personnages de la recherche, vous êtes enfin l'auteur d'un Que sais-je intitulé Les 100 mots de Proust. Et enfin, toujours en studio, Charles Dantzig, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de nombreux livres, dont un dictionnaire égoïste de la littérature française chez Grasset. Vous êtes producteur sur France Culture de l'émission Personnages en personne et vous organisez donc un fil de podcast sur Proust dans lequel cette émission va d'ailleurs s'insérer car nous fêtons le 150e anniversaire de la naissance de l'écrivain. Le 10 juillet 1871 et bientôt le centenaire de sa mort en 1922. Ça doit être un anniversaire un peu émouvant pour vous, Charles Dantzig.
Mais oui, parce que c'est le triomphe du petit chose. C'est que Marcel Proust a mis, on le racontera peut-être dans cette émission, finalement beaucoup de temps à éclore. Ça a été un écrivain dont la gloire a été lente. Maintenant qu'il a gagné rétrospectivement, on imagine que Proust a toujours été glorieux, mais la vraie notoriété de Proust a commencé réellement après-guerre, dans les années 50 avec des rééditions d'inédits et la première édition de la Pléiade. Pendant tout ce temps-là, entre-temps, il attendait, il piétinait. Et il faut pas oublier, vous savez, que par exemple, au début de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, un écrivain spécialement imbécile des éditions Albin Michel avait écrit que nous avions perdu la guerre à cause de Marcel Proust et d'André Gide. Mmh. Donc c'était pas gagné, et je trouve ça assez émouvant que cet écrivain...
Pourquoi est-ce qu'on aurait perdu la guerre à cause d'eux? Parce qu'ils ne sont pas allés dans les tranchées?
Parce qu'ils voulaient dire que Gide et Proust étaient les incarnations de la décadence, de la chochotterie, de l'effémination, de la virilité française. Vous voyez,
vous parlez de la Seconde Guerre.
De la Seconde Guerre.
Il n'y avait pas de tranchées.
Et donc, effectivement, c'est très émouvant de voir que parfois, les gorilles qu'on croyait devoir gagner la postérité, les grandes gloires du temps, s'effacent au profit d'écrivains qui avaient l'air plus chétifs et peu importants, et qui finalement se révèlent des écrivains majeurs.
Depuis quand est-ce que vous êtes proustien, Charles Dantzig? Est-ce qu'il y a eu un moment de révélation? Est-ce que vous pouvez noter un moment en particulier?
Ah, tout à fait bien. J'avais 17 ans, c'était ma première année de droit, et je n'ai rien fait dans ma première année de droit à part de lire la Recherche du temps perdu en entier. C'est la première fois que je le lisais, et j'ai d'ailleurs eu une expérience assez étrange. C'est que la première fois que je l'ai lu, j'ai compris ce qu'on me racontait, mais je ne voyais pas à quoi ça servait. C'est-à-dire, je voyais bien comment raconter l'histoire.
Donc vous n'avez pas aimé tellement que ça?
Si, j'ai été intéressé, mais j'ai pas été bouleversé parce que c'était un peu opaque. Et je pense que ça vient du fait que j'avais probablement l'idée que c'était un livre de vieillard et que c'était pas un vieillard qui ressemblait aux autres vieillards. Les autres vieillards, c'était Anatole France et des gens comme ça. Et je comprenais pas bien. Et en revanche, à la deuxième lecture, là, un monde s'est ouvert devant moi parce que j'ai compris qu'en réalité, c'était pas un livre d'histoire, c'était pas un livre de sujet, c'était un livre de forme.
Alors justement, on va essayer d'expliquer un petit peu pourquoi ce livre est important. Michel Herrmann, est-ce que sur une phrase, sur un chapitre, vous avez eu, comme Charles Dantzig, une révélation concernant Proust?
Oui, absolument. Je faisais des études de philosophie, je lisais de la philosophie, et je dois dire que je m'ennuyais un peu parfois. Et un peu par hasard, je suis tombé chez un bouquiniste sur une édition du côté de chez Swann. J'ai lu du côté de chez Swann et j'ai eu l'impression de tout comprendre. J'ai l'impression de comprendre des problèmes philosophiques qui m'étaient posés de façon abstraite, théorique.
Vous voulez dire de comprendre le monde en dehors de la recherche, grâce à la recherche?
Non, grâce à la recherche, de comprendre quelque chose du monde, de comprendre en gros, ne serait-ce que la théorie hegelienne de la reconnaissance, par exemple, dans le Salon Verdurin. C'est de comprendre Sartre, parce que le Salon Verdurin, c'est déjà un peu l'enfer des autres. L'enfer, c'est les autres. Voilà. Et donc, j'ai trouvé que ce que on y réfléchit plus tard, que le roman de Proust, c'était, vous savez, il y a souvent des romans qui racontent la vie, puis certains qui la pensent. Eh bien, le roman de Proust, à la fois, raconte la vie et la pense. Et c'est peut-être un des indices de son succès aujourd'hui, car il n'a pas toujours eu le succès qu'il connaît aujourd'hui. La carrière de Proust n'a pas été des mieux engagées. Souvenez-vous qu'il a été refusé par tous les éditeurs en 1912-1913, à la place de Paris, en particulier par la fameuse NRF. À ce propos, d'ailleurs, on dit souvent que c'est la faute de Gide, mais c'est pas tout à fait le cas. Oui. Gide n'avait pas lu, et c'est d'autres membres du comité de lecture de la NRF qui ont refusé le livre.
Alors on parlera peut-être un peu plus longuement de cette question. Ce que je comprends de ce que vous dites, Michel Herrmann, c'est que ce qui fait la valeur, ou l'une des choses qui font la valeur de la recherche, c'est que c'est un livre qui encapsule à la fois une philosophie et une façon de raconter cette philosophie. Est-ce qu'on peut reformuler comme ça?
Oui, mais pour une raison au fond extrêmement simple, extrêmement naturelle, qui échappe beaucoup, je trouve, aux critiques, pas aux lecteurs, mais aux critiques, c'est que c'est un roman sur la vie. C'est un roman, c'est une traversée de l'existence. Par un homme qui sait d'une certaine façon qu'il a peut-être brûlé ses vaisseaux, mais qui rêve tout de même d'une Ithaque retrouvée. Et en ce sens, c'est un, même si la fin du temps retrouvé, c'est un livre crépusculaire, dans lequel l'effort fait pour retrouver le temps est un effort presque inaccessible. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que Proust a traversé la vie à travers les trois grandes dimensions du temps, tels que l'exposaient les Grecs, le chronos, c'est-à-dire le temps qui passe et qui nous détruit, le kairos, le temps des événements, il y a beaucoup, beaucoup d'événements de vie dans la recherche du temps perdu, et puis le temps cyclique, le temps qui nous entoure, que les Grecs appelaient l'aïon. Et donc, cette sorte d'effort du narrateur pour reconquérir son passé à travers toutes ces dimensions du temps qui s'interpénètrent, c'est quelque chose de pratiquement impossible. Et en même temps, il répond à la question que pouvons-nous espérer ? On peut espérer cet effort. On peut espérer, au fond, ce chemin. Donc c'est un grand livre qui parle de toutes les questions finalement philosophiques qui se posent aux êtres humains.
Donc un grand livre par son ampleur théorique. Thierry Lager, j'imagine que vous vous définiriez aussi comme proustien, mais depuis quand et y a-t-il eu une révélation ?
Oui, il y a eu une révélation. J'avais 16 ans et j'ai eu un coup de foudre pour la première page du côté de chez Swann. Et j'ai été happé par ce livre qui, curieusement, est plein d'histoires, en effet, plein de drôleries, parce que c'est tout de même ce qui, à l'époque, m'avait retenu. On rit beaucoup en lisant Proust, à chaque page. Et même quand la tristesse pointe, le sourire n'est pas loin. Et en même temps, il y a des aventures nombreuses. Enfin, par aventure, évidemment, il ne faut pas s'imaginer que on va voir des mousquetaires sauter sur les toits et combattre des armées ennemies, non. Mais on a des histoires d'amour qui sont tout aussi palpitantes, des histoires de vieillissement, des histoires aussi de lutte contre la stérilité littéraire, parce que c'est tout de même l'histoire de quelqu'un qui veut devenir écrivain, ou en tout cas qui ne veut peut-être pas le devenir, mais qui va le devenir. Et happé par ce mouvement, par ce flux de personnages, d'histoires, d'aventures, on ne s'aperçoit pas du service que Proust nous rend, qui est de nous mener peu à peu à une forme de sagesse. Alors c'est en cela peut-être que c'est un livre culte, non pas qu'on aille s'agenouiller devant l'autel que Proust aurait dressé pour nous, mais il est un peu comme une Joconde. Vous savez qu'on dit de la Joconde que quand on est face à elle, on a l'impression qu'elle nous regarde, où qu'on soit, on peut faire un pas de côté, elle continue de nous regarder. Et chacun a l'impression d'être celui qu'elle regarde. Et bien Proust, c'est un peu ça, son livre nous regarde, et où qu'on soit, il est toujours là, pour peu qu'on l'ait lu jusqu'au bout, évidemment.
Alors cette sagesse, Thierry Lager, c'est peut-être de dire que l'amour, l'ambition, ce sont des illusions. C'est peut-être de dire que de désirer trop quelque chose, c'est s'assurer de ne pas l'obtenir. Que nous dit Proust au fond ?
Oui, Proust nous dit que pour le désir par exemple, on ne finit par obtenir les choses que quand on ne les désire plus. Et finalement, c'est aussi la grande leçon de son livre, que le narrateur devient écrivain, le héros devient narrateur, plus exactement, au moment où peut-être sa vie se termine. Mais c'est là que sa vie commence vraiment, puisqu'il dit que la vraie vie, c'est la littérature. La vie enfin retrouvée.
Sur cette idée, Charles Danzig, réflexions qu'on peut tirer de la recherche, finalement, d'un message, même si c'est un peu bête de le dire comme ça, de Proust, qu'est-ce que vous souhaiteriez dire ?
Eh bien, la chose qui me frappe le plus, c'est que, mais peut-être au fond, comme toutes les très grandes œuvres d'art, je pense que à la recherche du temps perdu, car j'aime pas beaucoup dire la recherche tout court, parce
qu'on va devoir le dire quelques fois, parce que ça raccourcit quand même beaucoup.
Les auteurs ne se sont pas tués à trouver un livre, un titre pour qu'on le raccourcisse. Mais ce que je veux dire, c'est que
le dictionnaire égoïste de la littérature française, voilà, faut le dire à chaque fois, puisque tel est le titre de l'un de vos livres.
Ce que je veux dire, c'est que comme toutes les grandes œuvres d'art, probablement, ce qui me frappe, c'est que au fond du fond, c'est que d'abord, c'est un roman sur la création. Le sujet de Proust, c'est un roman sur la création, parce que c'est l'histoire d'un petit jeune homme qui rêve d'écrire, puis qui hésite, qui tergiverse, et qui, à la fin, finit par décider d'écrire, et le livre est fait. Et d'autre part, c'est un livre de contestation de la vie. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est que je crois que toute grande œuvre d'art est une contestation de la vie, que ce soit des peintres, que ce soit des auteurs de théâtre. Et d'ailleurs, ce qui est très frappant dans La recherche du temps perdu, c'est que Proust met très souvent le mot « vie » entre guillemets, comme si c'était un mot un peu sale et un peu douteux. Et on sait bien que tout ce qu'il nous dit, c'est que la révélation de ce qu'on appelle le réel ne peut nous venir que par l'œuvre d'art.
Eh bien, Proust donne une leçon extraordinaire. Il apprend d'abord que on ne peut pas écrire sans accepter une ascèse totale de la vie, même de la vie quotidienne. Il faut renoncer à la frivolité, ce que Proust appelle la frivolité, c'est-à-dire à la mondanité. Il faut s'enfermer, c'est un acte total, et la frivolité ne deviendra plus qu'une sorte de réalité rêvée qui sera le sujet du livre, mais l'auteur lui-même ne vivra plus dans la frivolité. Autrement dit, la première leçon de Proust, c'est pour les écrivains de poser une sorte d'alternative radicale, et je dirais presque chirurgicale, entre écrire d'une part et tout le reste d'autre part. La seconde leçon, si vous voulez, à mon sens, c'est que pour Proust, la seule raison d'écrire, c'est le bonheur. La décision d'écrire de Proust, c'est une décision qui correspond exactement avec la métamorphose d'une vie somme toute malheureuse et inutile dans une vie heureuse. Écrire, c'est être heureux.
Sans oser le demander sur France Culture et à l'instant une archive de Roland Barthes pour qui écrire selon Proust c'est une ascèse, c'est le contraire de la frivolité, c'est le contraire de la mondanité, un petit peu ce que vous disiez je crois Charles Danzig à l'instant. On peut peut-être aller plus loin Michel Herman, cette idée au fond que À la recherche du temps perdu est un grand roman parce que c'est un roman du retrait, c'est un roman où son auteur finalement a renoncé au monde, ce monde qu'il semblait aimer par-dessus tout, pour écrire le monde. Est-ce que c'est l'un des arguments qui font que c'est un grand roman, selon vous ?
Alors écoutez, au risque de paraître iconoclaste, je partage entièrement la deuxième proposition de Roland Barthes, mais pas du tout la première. Car à bien y regarder, à y regarder de près, il est bien évident que lorsque le héros envisage d'écrire, le héros narrateur envisage d'écrire, parce qu'à un certain moment, il est impossible de distinguer entre les deux. Il dit bien qu'à un certain moment, il aura envie de rencontrer des jeunes filles, de vivre quelques aventures, quelques flirts ou quelques aventures avec elles. Il compte même sur son premier amour, Gilberte, devenue Madame de Saint-Loup, devenue une dame d'ailleurs, pour laquelle il n'éprouve plus aucun sentiment, car elle a changé. Et lui, il restait le même, et elle a changé. Et il compte même sur elle pour lui présenter un certain nombre de ses amis. Il n'a pas du tout renoncé à l'amour. Il a renoncé à l'amour-passion. Il a renoncé à l'amour-jalousie. Il a renoncé, parce que faut dire une chose, qu'est-ce que c'est que la jalousie chez Proust ? C'est au fond un degré supplémentaire de l'amour romantique. La jalousie a toujours existé. C'est une peur, une crainte de ne pas être aimé. C'est plus ou moins rationnel, mais enfin, c'est une peur. Chez Proust, ça devient une angoisse totale. Et une angoisse qui crée le sentiment amoureux. Hein, rappelons-nous de Swann, par exemple, qui finalement tombe amoureux d'Odette, il vit un simple flirt avec Odette. Et le jour où elle n'est pas là chez les Verdurin, tout d'un coup, il sent en lui une angoisse qui le déchire.
Alors que c'est quelqu'un qui n'est pas très intéressante. Enfin, ça n'est pas une femme au niveau des autres femmes qu'il rencontre d'habitude.
Bien sûr. Il n'en est pas du tout amoureux. Il ne la trouve pas très jolie, d'ailleurs. Bon. Mais il tombe éperdument amoureux d'elle à un moment où il éprouve l'angoisse de ne plus la voir. Il parcourt tout Paris pour aller la retrouver. Il la retrouve par hasard au bout de quelques heures, sortant d'un restaurant des boulevards dans lequel elle a sans doute entretenu une liaison avec quelqu'un. Il la possède, et c'est le fameux moment, faire Catlia dans la voiture qui les ramène. Mais c'est l'angoisse, si vous voulez. Ce qui crée l'amour proustien, c'est pas du tout chez Proust, hein, c'est pas du tout le coup de foudre, c'est le coup d'angoisse.
Donc on sent bien que Proust a mis vraiment le doigt sur quelque chose qui parle à tous les lecteurs, et cela indépendamment de leur classe sociale ou du moment de l'histoire dans lequel ils sont nés. Comment en a-t-il parlé autrement que les autres ? Parce que c'est quand même un sujet qui est assez rebattu par la littérature. Qu'est-ce qui fait que il en a parlé différemment des autres ? D'abord Thierry Lager, puis ensuite on fera un tour de table sur ce sujet.
Il en a parlé d'abord à la première personne. Non pas que son livre soit une suite de mémoires, mais il a plongé dans son expérience personnelle pour en retirer des lois qui sont universelles. Il a commencé d'abord par écrire Jean Santeuil, un roman qu'il a laissé inachevé parce que peut-être, pour bien des raisons, il en est une sans doute qui est plus importante, il l'avait écrit à la troisième personne. Ce jeu est celui qui permet au narrateur de se plonger vraiment dans la passion, dans la jalousie. Il ne le voit pas de l'extérieur, il le voit de l'intérieur. Mais et c'est pour cela qu'il peut vraiment l'analyser profondément.
Est-ce que ce jeu le singularise en tant qu'écrivain? C'est-à-dire, est-ce que c'est très spécial d'avoir cette démarche-là quand on est écrivain? Parce qu'on peut imaginer que le fait de se projeter soi-même, de parler avec un pseudo-jeu, est quand même quelque chose qui se faisait à l'époque. Est-ce qu'il n'y a pas encore autre chose en plus, Thierry Lage?
Oui, il y a mille choses sans doute qui l'en distinguent. Il y a cette façon qu'il a de montrer des personnages qui changent. Chez Balzac, par exemple, un personnage est le même du début à la fin. Il a des passions, il a des vices et il n'en sort pas. Chez Proust, on s'aperçoit que les personnages sont variables, mais même dans l'instant. Par exemple, il y a des portraits d'Albertine où son sourire, même sa physionomie évolue. Elle a un grain de beauté, il ne sait pas où la placer. Chaque personnage, le baron de Charlus, est une énigme jusqu'à ce qu'on comprenne qui il est vraiment, c'est-à-dire ce que Proust appelle un inverti, et ainsi de suite. Lui-même, le narrateur, qui est d'abord présenté comme un personnage snob, finit par comprendre que le snobisme est le contraire de la création, mais en même temps que s'il n'avait pas été snob, il n'aurait pas été créateur, puisque pour décrire les salons et pour décrire cette autre passion qu'est le snobisme, il fallait l'avoir vécu.
Charles Dantzig.
D'abord, je crois qu'il faut remarquer une chose, c'est combien Proust est héroïque. C'est-à-dire que Proust s'est élevé à la recherche du temps perdu. Car nous connaissons les écrits que Proust a publiés avant, qui sont des écrits assez anodins. Il a publié deux traductions et un recueil de nouvelles ou de prose poétique qui s'appelle « Les plaisirs et les jours » qu'avait préfacé Anatole France, qui était plutôt, toute révérence gardée, de la littérature assez fade. Et tout d'un coup, Proust s'est retiré, ce mondain est devenu un moine pour écrire ça. D'autre part, pour en revenir à la question du jeu, Mathieu, je crois que vous aviez tout à fait raison, ce jeu est très nouveau, car ça n'était, bien sûr, d'autres écrivains avaient écrit, il ne manque pas de romans picaresques narrés à la première personne. D'ailleurs, on pourrait dire qu'À la recherche du temps perdu est un roman picaresque. Mais ces jeux du roman picaresque étaient des personnages très différents de l'auteur. Ce qu'a fait Proust de manière géniale, c'est qu'il a rapproché le jeu du narrateur de l'auteur, en créant quand même une distance, parce que le narrateur n'est pas l'auteur, pour bien des raisons. Le narrateur est hétérosexuel, il n'est pas juif par sa mère, enfin, des tas de choses qui le distinguent beaucoup de Proust, mais quand même, il a
rapproché... C'est un peu formel, quand même, ces différences, non?
Bah, vous trouvez qu'un hétérosexuel et homosexuel, c'est formel comme différence?
Non, mais enfin, il est très possible que ce soit simplement une manière pour Proust de se cacher.
Non, car je crois que réellement le narrateur est hétérosexuel. Il y a bien des mentions dans le livre qui font qu'il ne peut pas être hétérosexuel, je le crois. Enfin, on passerait beaucoup de temps à ça. Et d'autre part, vous posiez la question de ce qu'il a apporté de nouveau et de ce qui peut nous toucher maintenant. Moi, ce qui me frappe beaucoup, et ça n'est pas pour rien d'ailleurs que Racine était un de ses auteurs préférés, parce qu'en cela, il lui ressemble, c'est que Proust apporte à la littérature française la souffrance des hommes. Avant, ça n'existait pas. Mm-hmm. Les gens qui souffraient dans la littérature, c'était les femmes, pour telle ou telle raison. Elles étaient malheureuses, on peut dire que c'était du sexisme, etc. Mais quand même, la souffrance était valorisante aussi. Et tout d'un coup, et les hommes, d'autre part, devaient être virils, etc. Vous ne verrez jamais dans Victor Hugo, même dans Alfred de Musset, le seul écrivain qu'on puisse rapprocher de Proust de ce point de vue-là, c'est à mon avis Leopardi. Mais Leopardi est un poète et n'écrivait pas de la prose, et on est plus habitué à l'élégie chez les poètes. Mais cette idée, pour moi, est cruciale de l'apport de la souffrance de l'homme, de l'être masculin dans la littérature.
Michel Hermant, sur cette idée que, plus que d'autres écrivains, il a réussi à donner ce sentiment au lecteur que vraiment, il avait compris ce qui se passait entre les êtres. Comment peut-on l'analyser? D'où est-ce que cela peut provenir?
Oui, moi je crois que une des particularités du roman, je le disais tout à l'heure, c'est que c'est une fable sur le temps. Donc quand il raconte la vie, il ne raconte pas vraiment la vie. Hein. Au moment où l'on vit, on ne serait pas capable d'en avoir conscience. On ne serait pas capable d'une véritable présence à soi. Et c'est la mémoire qui orchestre tout. Donc tout est passé au filtre de la mémoire. Même quand il n'y a pas de grand dispositif mémoriel, comme lors des réminiscences de la mémoire involontaire. C'est ça, là, pour moi, la particularité. C'est-à-dire que il réfléchit la vie en la passant au filtre de la mémoire. Et donc, là, évidemment, derrière, il y a tout le climat bergsonien de l'époque.
Donc, il y a aussi une philosophie bergsonienne, et même qui va peut-être au-delà de Bergson. Enfin, il y a peut-être une philosophie platonicienne qu'on trouve chez Proust dans À la recherche du temps.
Là, c'est une vaste question, hein, mais je vais essayer de répondre succinctement. Mais le problème, la question, c'est qu'au fond, c'est la mémoire qui donne consistance à la réalité. Ça c'est quelque chose de tout à fait nouveau dans la littérature française. Mmh. Alors maintenant, par rapport au, entre guillemets, au modèle philosophique, enfin au modèle métaphysique, il y a un climat bergsonien, mais la vision du temps proustienne n'est pas bergsonienne. Pour une raison très très simple qui a trait précisément à la mémoire. C'est que tous les deux, Bergson et Proust, ont en commun le fait que le moi existe dans la mesure où il y a un rapport entre le présent et le passé. Mais pour Bergson, au fond, la mémoire emmagasine tout. Et au fond, c'est comme un magasin qui a la conscience a son passé à disposition, puis à un moment, au gré des événements, certains ressortent. Proust ne croit pas ça du tout. Proust croit plus précisément que, au fond, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Charles Lansing, c'est que les moments qui ont marqué la mémoire, les moments finalement qui façonnent l'être, ce sont des moments de souffrance.
Et pardonnez-moi de vous interrompre, mais Proust lui-même, dans un entretien de son vivant, a contesté le rapprochement qu'on faisait déjà beaucoup entre lui et Bergson. Lui-même disait « j'aime beaucoup Bergson ». D'ailleurs, on sait qu'il a assisté à la leçon inaugurale de Bergson au Collège de France, mais lui-même contestait ce rapprochement qu'il trouvait abusif qu'on faisait entre lui et Bergson.
Oui, à propos de la mémoire, précisément. Oui, oui, oui. Hein, parce que pour lui, la mémoire n'est pas la mémoire bergsonienne.
Tout de même, Thierry Lager, est-ce que vous avez le sentiment que ce qui fait aussi de la recherche un très grand roman, c'est un rapport réflexif avec la durée, avec le temps et avec la mémoire? C'est presque une évidence que de répondre, je pense, par le oui, mais j'aimerais que vous développiez ce point si possible.
Oui, alors ça, il y a eu des études très très intéressantes sur la durée et le temps chez Proust, où on s'est aperçu qu'il pouvait passer en une ligne sur des années, et ça c'est une leçon qu'il a prise de Flaubert, à la fin de l'éducation sentimentale, il voyagea, etc. Et en même temps, il peut faire durer pendant des centaines de pages une soirée mondaine avec des discussions qui n'ont pas du tout d'intérêt en dehors de la satire qu'il peut en faire. Et le temps qu'il reconstruit, qu'il retrouve, ce n'est pas un temps linéaire, c'est un temps fragmenté, c'est un temps qui s'est éparpillé dans sa mémoire, comme le disait Michel Herman, qu'il retrouve involontairement, avec d'abord ce qui frappe évidemment le lecteur et qui a frappé la postérité, l'épisode de la petite Madeleine, qui lui permet, en associant le goût d'une Madeleine du présent au goût d'une Madeleine du passé, il retrouve tout son passé, tout le village dans lequel il a passé une partie de son enfance.
Au bout de 712 pages de ce manuscrit, après d'infinies désolations d'être noyé dans d'insondables développements et de crispantes impatiences de ne pouvoir jamais remonter à la surface, on n'a aucune notion de ce dont il s'agit. Qu'est-ce que tout cela vient faire? Qu'est-ce que tout cela signifie? Où tout cela veut-il mener? Impossible d'en rien savoir. Impossible d'en pouvoir rien dire. La lettre jointe au manuscrit apporte quelques éclaircissements, mais le lecteur du volume n'aura pas cette lettre sous les yeux. Toute cette première partie, déclare la lettre, n'est qu'une préparation à une ouverture poétique. Un volume plus long qu'un des romans les plus longs de Zola, c'est excessif comme préparation. Et le malheur plus grave, c'est que cette préparation ne prépare pas du tout. Même renseigné par la lettre, on se demande constamment « Mais pourquoi tout cela? Mais quel rapport? Quoi? Quoi enfin ?» Il y a là vraiment un cas pathologique nettement caractérisé.
Sans oser le demander, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Alors ça, c'est le rapport de lecture de l'écrivain Jacques Normand à la lecture donc du manuscrit de Du côté de chez Swann. On est en 1912 et on voit bien que le génie de la recherche n'a pas été tout de suite compris. C'est le moins qu'on puisse dire, même Michel Armand.
Oui, il y a eu d'autres lectures qui faisaient état d'un roman sans intrigue, d'un roman aux phrases embrouillées, d'un roman fort ennuyeux. Et même Henri Guéon, un des membres de la NRF qui a refusé, qui a participé au refus par le comptoir d'édition de la NRF en 1912, a dit un peu plus tard, quand le livre a été publié à compte auteur chez Grasset, c'est une œuvre de loisir.
Mais est-ce qu'on peut comprendre, est-ce qu'on peut expliquer justement ces critiques-là et comment ?
Alors, il y a une explication qui va vous paraître peut-être bien modeste, mais elle est matérielle. Le manuscrit que Proust avait envoyé, c'était un manuscrit plein de confusion. Il y avait encore des corrections à faire. Alors, il n'y avait pas encore de paperolles, mais bon, c'était un manuscrit difficile à lire. Si bien qu'il a été lu que partiellement. Comme je le disais tout à l'heure, Gide n'y est pratiquement pour rien, Gide n'avait pas lu. Par contre, au comptoir d'édition, à cette époque-là, la NRF, c'est un tout petit cénacle, hein, et c'est un comptoir d'édition qui s'ajoute à la revue. Ils sont quelques-uns. Et Jacques Rivière, dans ses notes, d'ailleurs, nous apprend une chose, c'est que la manière de fonctionner de ce petit cercle était tout à fait fantaisiste. On lisait les manuscrits des amis, en quelque sorte, hein, ou des gens qu'on nous avait recommandés. Bref, donc, il y a déjà des raisons matérielles, des raisons extrêmement contingentes. Bon. Ensuite, on dirait que Jacques Normand a lu un peu plus. À mon avis, il a lu les 20 premières pages. C'est-à-dire qu'il a lu cette partie du roman dans lequel, volontairement, Proust écrit avec une sorte de confusion. On ne sait pas où on est. On ne sait pas qui est ce jeu. C'est comme s'il y avait deux narrateurs, en quelque sorte, au tout début du roman. Donc, on peut comprendre la difficulté de lecture.
Donc, il faut peut-être dire, Charles Dantzig, que pour entrer aussi dans ce roman, il faut laisser du temps et il faut s'y adonner un petit peu. Il est normal de ne pas apprécier la recherche tout de suite.
Je voudrais juste dire qu'il y avait aussi là-dedans une part de faute de Proust comme homme relativement à ce qu'est la ville de Paris. C'est-à-dire que le Paris littéraire est un tout petit milieu qui juge très vite et les idées sont figées extrêmement vite. Et Proust passait par sa faute, parce que j'ai dit qu'il avait publié très peu de livres, mais il avait publié beaucoup d'articles dans le Figaro, des salons mondains, etc. Et donc il passait pour un petit jeune homme flatteur et obséquieux qui flattait les duchesses par-dessus le marché à une époque où ça comptait beaucoup. Il vivait rive droite, alors que la NRF était très rive gauche, et ça, c'est une époque où ça comptait beaucoup. Donc il y avait le puritanisme protestant des Gallimard, etc. Et lui était un écrivain qui passait, vivant où il vivait, écrivant ce qu'il écrivait, pour un résidu du Second Empire. D'autre part, pour répondre à votre question, Mathieu, je crois que Proust est un écrivain très facile à lire. Proust est un écrivain très facile à lire.
Pourquoi n'a-t-il pas cette réputation-là, alors ?
Ben parce que les gens ne le lisent pas. Proust, c'est devenu, le drame de Proust, c'est que c'est devenu une marque. C'est comme Chanel, c'est comme Gucci. Et donc, du coup, on se contente de la marque et on le lit assez peu, je crois. Mais lire Proust, il y a une longueur. Mais la longueur, qu'est-ce que c'est ? C'est comme une nage. Il suffit de s'adapter à son rythme. Il y a une grande différence entre Proust et Joyce. Il n'y a pas dans Proust de jeu littéraire, parodique, d'allusion, de troisième sous-couche.
Et en même temps, on peut le relire quand même plusieurs fois en découvrant à chaque fois de nouvelles choses. Donc il y a tout de même différentes couches de sens.
Oui, bien sûr, il y a différentes couches de sens, mais je veux dire que lui ne sème pas de pièges, ne sème pas de pièges d'érudition dans son livre, comme pouvait le faire Joyce. Donc en réalité, il y a une vraie simplicité à lire Proust.
Michel Armand.
Bon, juste une petite anecdote pour illustrer un peu ce qu'on est en train de dire. En 1912, effectivement, Proust n'existe pas dans La République des Lettres, et chaque fois qu'il contacte un éditeur, d'ailleurs, il le contacte via un de ses amis qui apporte le livre. Bon. Donc voilà. Mais chose intéressante, il écrivait quelques articles dans Le Figaro. Il avait publié d'ailleurs un petit extrait de la recherche, du Temps Perdu, ce qui était à l'époque Le Temps Perdu dans Le Figaro. Il écrivait aussi quelques articles et parfois les lecteurs lui répondaient. Et les lettres arrivaient. Il était totalement inconnu sur le bureau de Marcel Prévost. Et Proust dit à un de ses amis en 1913, quand il est à la recherche d'un éditeur et qu'il est sans cesse confronté à des refus, il dit « Mon nom n'est qu'une faute d'orthographe ».
Ouais. En effet. Thierry Lager, du coup, 1913, c'est une année où Proust va imaginer que peut-être il aura le prix Goncourt. Comment se passe finalement, quel est le rapport entretenu au fur et à mesure des années, puisqu'il ne veut pas l'avoir cette année-là, l'année de l'apparition de Du côté de chez Swann, mais quelle est l'évolution de son rapport avec le Goncourt, qui nous permet aussi de comprendre un petit peu quelle est l'évolution de la réception de Marcel Proust et de ce roman À la recherche du temps perdu.
Il faut penser que Proust a passionnément désiré la reconnaissance. Je ne dirais pas qu'il a souhaité la gloire, mais il voulait être lu. Il voulait que son livre entre partout, parce qu'il pensait que son livre avait à parler à tout le monde. Et pour lui, tout était bon. C'est-à-dire qu'il dit à plusieurs reprises que une fois que l'œuvre a été écrite avec intransigeance, il faut se donner les moyens de la faire lire et que pour cela... on peut en passer par certains expédients. Donc, il n'a pas hésité, par exemple, à écrire lui-même certains articles qui faisaient la promotion de son œuvre, quitte à les faire signer par d'autres. Et il a également intrigué pour avoir le prix Goncourt. Alors, en 1913, il y a eu plusieurs facteurs qui ont fait qu'il n'a pas obtenu le prix. D'abord, son livre a été imprimé un peu trop tard pour être... confié aux académiciens. Un fort volume imprimé en petits caractères ne pouvait pas être lu aussi rapidement. Mais il y a eu aussi qu'il avait face à lui des concurrents redoutables. Quand on pense à cette année 1913 dans le roman, on voit qu'il y a Alain Fournier, le grand mône, qu'il y a Valérie Larbeau, qu'il y a j'en oublie, il y a Martin Dugard, etc. Et finalement, ce n'est aucun de ceux-là qui aura le prix en 1913. C'est un livre aujourd'hui complètement oublié. Qui raconte une histoire de pêcheur en Bretagne.
Donc il faut attendre octobre 1919 pour que finalement Proust ait le Goncourt. On va peut-être raconter dans quelles circonstances. Mais quand vous disiez à l'instant, Thierry Lager, qu'il y avait quand même une volonté d'être lu et une volonté de reconnaissance, est-ce que vous pensez qu'au moment où il écrit À la recherche du temps perdu, il pense aussi à cela? Et y a-t-il selon vous une volonté de séduire dans la manière dont est écrit ce livre?
Non. Il dit vraiment qu'il a écrit son œuvre avec intransigeance, c'est-à-dire qu'il n'a fait aucune concession sur ce qu'il avait à dire, sur la façon dont il voulait le dire, et il savait d'ailleurs qu'il y aurait des parties qui allaient choquer, par exemple les parties sur l'homosexualité, Sodome et Gomorre. Il avait très peur que les lecteurs le reçoivent assez mal. André Gide, après coup, a regretté de ne pas avoir publié Coridon parce qu'il s'est dit qu'il n'avait pas eu le courage que Proust avait eu. On ne s'en rend plus compte aujourd'hui, mais c'était assez audacieux que de dépeindre l'homosexualité comme il l'a fait, même si certains pensent, et Gide était de cela, qu'il n'en a pas fait un portrait aussi charmant que eux-mêmes l'auraient souhaité.
Oui. Charles Dantzig, sur ce point, est-ce que ça fait aussi de À la recherche du temps perdu un roman très novateur, la façon dont est traitée la question de l'homosexualité?
Non seulement ça, mais Proust a été rejeté parce qu'il avait une façon d'écrire très nouvelle et ce qui est nouveau est toujours rebutant. Voilà. Il y a une chose très simple. Et depuis tout à l'heure, nous parlons des sujets, ça peut être l'homosexualité, la souffrance, etc. C'est tout à fait exact. Mais ce qui fait que Proust reste, après tout, ces sujets sont traités par d'autres, c'est la façon qu'il a d'écrire et qui est excessivement nouvelle. C'est la forme de Proust. J'aime pas beaucoup le mot style, et d'ailleurs, lui-même l'employait parfois avec réticence, mais c'est la façon que Proust a d'écrire et qui fait que...
Comment décrire cette manière, alors?
Eh bien, c'est une manière, totalitaire, envahissante et liquide, je dirais.
Proust totalitaire.
Oui, car Proust est très tyrannique. Proust est, moi je dis souvent que Proust est ma mère et Proust est une mère, c'est-à-dire il a la tyrannie de la mère. D'abord, il veut être aimé. Il est très frappant que dans son livre, ce qui intéresse le narrateur, c'est d'être aimé et pas d'aimer. Il y a rien de plus beau pour le narrateur que d'être aimé comme une mère. Et puis
Swann voudrait aussi, oui, c'est vrai, il voudrait aussi être aimé.
Oui. Donc le il y a ce côté maternel, envahissant, caressant, parfois un peu sournois de la prose de Proust. Très, qui prend tout son temps, et il est là, un peu... Quand il est mort, Barrès, qui était en son enterrement, a dit « c'est la conteuse arabe à la loge de la portière ». La portière, ça voulait dire concierge à l'époque. Mais il y a un côté Oum Kalsoum dans Proust, vous voyez, ce côté chanson interminable qui nous enrobe et qui nous englobe.
Oui, très, très envoûtant. C'est votre avis aussi sur le style, alors il ne faut peut-être pas employer ce mot-là, mais en tout cas la manière de Proust, Michel Hermon.
Oui, je crois, pour le dire vite, que Proust est un écrivain de la sensation et que ce qui fait sa particularité avec tout un certain nombre de stylèmes, comme on dit, par exemple les trois adjectifs.
Les trois adjectifs, c'est-à-dire
C'est-à-dire que au fond, souvent, il décrit une sensation de trois points de vue différents en même temps. Mm-hmm. Donc j'ose pas faire de citation de crainte de la faire fausse.
C'est d'ailleurs une chose qui tenait de Racine. Je disais qu'il aimait beaucoup Racine et que Racine le marquait pour les sentiments, mais la triple adjectivation, c'est Racine.
Absolument, absolument. Et ça a couru d'ailleurs à travers jusqu'au début du XXe siècle. Bon, c'est une manière d'épuiser la sensation. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que pour Proust, il n'y a de réalité que réalité mentale, réalité psychologique.
C'est pour ça que d'ailleurs il n'a pas tellement besoin de sortir de sa chambre.
Oui, mais c'est quand même quelqu'un, si vous voulez, l'image du Proust valétudinaire, enfermé dans sa chambre et coupé du monde, c'est une image totalement fausse. Il sortait dès que sa santé lui permettait. Voilà. S'il avait été moins malade, il serait beaucoup plus sorti.
Mais sa vie était tout de même très intérieure et sans doute plus intéressante pour lui. Il était plus intéressant d'écrire que de vivre.
C'était un vampire. Il allait chercher ailleurs ce qu'il voulait décrire.
Je pense que pour écrire, il fallait vivre. Cette division entre le livre et le vivre, moi je ne la fais pas.
Enfin, on dit traditionnellement qu'il a vécu et puis qu'ensuite il a écrit.
Oui, mais je crois que c'est un peu un cliché, c'est une chose un peu voilà, parce que il a vécu tout en écrivant. Il s'est enfermé à cause de la maladie. Il s'est pas enfermé pour écrire. Encore une fois, il aurait écrit de toute manière. Alors peut-être la maladie a-t-elle été l'écriture a-t-elle été une manière de réagir contre la maladie, une sorte de courage qu'il a eu. Mais pour revenir à son style, c'est ça. La question fondamentale qu'il traite, au fond, c'est que nous ne pouvons connaître du réel que des apparences. Proust est très phénoménologue, d'une certaine façon. Et ces apparences entrent souvent en contradiction avec notre volonté, nos désirs, ce que nous attendons du monde. Et c'est ça qu'il tente de rendre. C'est cette espèce de béance qui se traduit par de la tristesse, qui se traduit par des échecs. Et c'est parce qu'il raconte des échecs, il raconte des moments de tristesse, qu'on a l'impression qu'il y a, au fond, une dialectique, qu'il va, par l'écriture, au fond, reprendre, retrouver sa vie. Je crois que c'est pas tout à fait ça. Le vivre et l'écrire se mêlent. Mais si vous le permettez, si on a le temps, juste à propos de l'homosexualité, il y a quelque chose de très intéressant. C'est que il en a parlé de façon... qui ne plaisait pas finalement aux homosexuels, ou à un certain nombre d'homosexuels. Pourquoi ? Parce que le modèle du personnage homosexuel masculin, hein, parce qu'il traite aussi l'homosexualité féminine. L'homosexuel masculin, c'est Charlus, au fond, et Charlus renvoie au mythe de l'androgyne. C'est un corps d'homme viril, avec une âme de femme, avec une sensibilité féminine. Bon. Et en cela, d'une certaine façon, il désire des hommes virils, mais les hommes virils aiment les femmes. Et donc, le destin sexuel d'un homosexuel masculin, c'est d'être malheureux. d'être malheureux, comme si la nature qui l'habitait, finalement déchirait son corps, d'une certaine façon. Bon. Et alors Gide, le propos est rapporté par Gaston Gallimard. Le propos est apocryphe, mais je crois qu'il est, il est tellement vrai. Gide aurait dit un jour à Proust, avec votre théorie de l'homosexualité, vous avez fait reculer la question de 50 ans.
Qu'est-ce que vous en pensez, Charles Dantzig?
Permettez la réponse de Proust. Il n'y a pas de question, il n'y a que des personnages.
D'abord, l'opinion de Gaston Gallimard est assez comique sur la question, car il a été publié il y a quelques années un livre de Massin, qui était le grand fabricant des éditions Gallimard, qui s'appelle Du côté de chez Gaston. Et Gaston Gallimard lui dit premièrement des horreurs sur Marcel Proust, qui lui rappelait Marcel Prévost précisément. Et d'autre part, il lui dit qu'il a toujours refusé de déjeuner avec André Gide à cause de ses mœurs. Donc, vous savez, la vie de Gaston Gallimard, un grand éditeur.
Pas de débat là-dessus.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il
passait très longtemps.
Il préférait Margaret Mitchell parce qu'il en avait vendu 1 million d'exemplaires, ce qui est bien normal d'ailleurs. Ce qu'il y a avec l'homosexualité, c'est qu'il parle de race maudite. Oui. Mais on peut le lui reprocher maintenant, mais c'était un fait. À l'époque, la race, si on peut employer ce mot, était maudite. Et il y a d'ailleurs... il était obligé de dire ça aussi, en partie de la même façon qu'il a abreuvé Paris de lettres en disant « je vais décrire des homosexuels, mais je réprouve tout ça », car lui-même a fait un procès à Jean Lorrain, l'écrivain, qui avait insinué qu'il avait couché avec Léon Daudet, et voilà Proust gay faisant un duel à un Jean gay Lorrain, qu'il accusait d'être gay. Oui. C'est-à-dire, mais ça prouve la terreur où on vivait à cette époque-là, c'est ça qui est terrible. Et d'autre part, Gide a écrit, on le voit dans l'édition corrigée et complétée, la nouvelle édition de la Pléiade de son journal, des horreurs sur l'interprétation de l'homosexualité par Proust.
Alors revenons au prix Goncourt, mais cette fois, celui qui a été gagné par Proust.
Le jour où le prix lui fut attribué, je peux vous assurer qu'il n'y pensait même pas. Je lui avais servi son café, son déjeuner vers les 3 heures de l'après-midi. Et il me demanda de ne le déranger pour personne. À 5 heures arrivèrent, tout rayonnement, M. Gallimard, M. Gide et M. Jacques Rivière, qui m'annoncèrent la victoire de mon maître et qui réclamaient de le voir à l'instant. Je répondis que cela était impossible. Toutefois, devant leur insistance, j'allai jusqu'à la chambre de M. Proust, qui fut surpris de mon intrusion, car c'était la première fois que je ne respectais pas la consigne et me permettais d'entrer chez lui sans être appelé. Je crois qu'il sommeillait. Je m'excusai et lui expliquai la raison de ma venue. Je dus insister à plusieurs reprises et je lui fis valoir la nécessité pour M. Gallimard d'être reçu, car il devait partir le soir même pour activer l'impression des nouveaux tirages réclamés par ce succès.
Sans oser le demander, sur France Culture, nous nous demandons ce que À la recherche du temps perdu a amené à la littérature. Thierry Lager, on entendait là Céleste Albaret, la célèbre maintenant gouvernante de Marcel Proust. Finalement, le prix Goncourt lui est donc attribué. Ça ne fait pas taire forcément toutes les critiques à ce moment-là.
Au contraire, ça les déchaîne. Il faut se souvenir qu'il avait face à lui Roland d'Orgelès, qui était un combattant, un héros de la guerre, et il était ami de tous les journalistes, puisque lui-même avait été journaliste avant la guerre, et l'était redevenu après, et tous ces journalistes ont voulu défendre l'un des leurs. Il y avait également des raisons politiques qui se mêlaient à tout cela. D'Orgelès, après avoir vu cette boucherie, ne souhaitait qu'une chose, c'était plus jamais ça. Donc il est entré dans des mouvements internationalistes pacifiques, pacifistes, avec Barbusse, qui avait également eu le prix Goncourt pour le feu pendant la guerre, lui. Et on comprend bien que face à lui, Proust, qui avait écrit un roman où des jeunes filles partaient en villégiature sur la plage, ne pouvait que paraître une provocation.
Donc ça réactive un peu la traditionnelle opposition droite-gauche, les nationalistes d'un côté et puis les internationalistes de l'autre, la question de l'engagement aussi en littérature.
C'est un peu plus compliqué en même temps, parce que parmi les nationalistes, il y en a eu qui ont défendu Proust, mais peut-être plus pour des raisons d'amitié ou de goût littéraire, comme Léon Daudet, qui a été membre du jury, qui fait partie donc de l'Académie Goncourt, et qui a fait une campagne en faveur de Proust, et qui a fait un grand article dans l'Action française où il parlait d'un nouveau et puissant romancier.
De toute façon, ce qu'on peut peut-être dire, Thierry Lager, c'est qu'il n'est pas très populaire, en fait, Proust. Ça n'est pas un écrivain populaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Ah, mais c'est le moins qu'on puisse dire. Il a été insulté par toute la presse de gauche en particulier, mais également une partie de la presse nationaliste, parce que il décrivait des aristocrates, des bourgeois, au lieu de décrire les peines des travailleurs, des peines du peuple, et en particulier de ceux qui avaient fait la guerre.
Ça fait encore écran, Charles Dantzig, aujourd'hui, à la réception de « À la recherche du temps perdu » et l'image qu'on s'en fait, cette idée qu'au fond, il n'est pas populaire, Proust.
Oui, probablement. Comme je vous disais, c'est une marque, c'est-à-dire on voudrait la voir, mais sans avoir à le lire, parce qu'effectivement, les gens se font une idée de lui selon laquelle ça serait des histoires un peu tarabiscotées. Il emploie lui-même le mot le narrateur emploie le mot dans La recherche du temps perdu sur des histoires de duchesse et d'amour compliqué, mais c'est pas parce que l'ensemble des gens pensent ça que c'est vrai. En plus, pour le prix Goncourt, ce qui s'est passé, c'est que l'Humanité l'a attaqué parce qu'il était de droite, ce qui était vrai. Donc vous aviez raison de dire que l'opposition droite et gauche jouait, et il y a aussi une chose qui a beaucoup joué, qui était l'homophobie. C'est-à-dire que tout Paris a ricané. Carlo Rim, qui était un scénariste très connu, qui est mort dans les années 80, a publié ses mémoires et a raconté que le jour où Proust a eu le prix Goncourt, son père, qui avait été ancien combattant, est revenu à la maison en disant non seulement il gagne contre un ancien combattant, mais en plus un PD. Mmh. Donc ça compte, et il n'est pas impossible que ça compte de nos jours.
Michel Herman, peut-être pour s'approcher de la fin de l'émission et enfoncer un peu plus le clou, qu'est-ce qui est le plus important finalement dans l'apport de ce livre À la recherche du temps perdu, qui est quand même étudié sans cesse à l'université? Il y a des colloques un peu partout dans le monde tout le temps. Qu'est-ce qui justifie cela?
Si vous permettez, avant de vous répondre, juste un tout petit mot sur le prix Goncourt, qui parce que quand Proust reçoit le prix Goncourt en 1919, il est extrêmement heureux et extrêmement mélancolique, parce que toute sa vie, jusqu'au prix Goncourt finalement, Proust attendait la reconnaissance. Il attendait même qu'on lui confie une chronique dans la presse. Il avait pourtant des amis qui étaient au Figaro littéraire. Il n'a jamais rien obtenu. Et lorsqu'il obtient le prix, il est à la fois heureux et mélancolique, et il trouve que ce prix arrive bien tard. Mmh. Il y a quelque chose d'extrêmement triste dans cette victoire, dans ce prix.
Maintenant, pour répondre, qui viendra après, est quand même très grande, justement.
L'histoire de la reconnaissance qui vient après, c'est vrai que c'est une longue histoire. Il y a plusieurs médiations qui vont permettre cette reconnaissance. Alors, mais pour répondre très rapidement à votre question, je crois que il décrit la vie dans tous ses aspects. Je crois que c'est ça.
Il décrit donc c'est infini. On peut l'étudier sous tous les angles.
Pour moi, qui suis philosophe, si vous voulez, lire Proust, c'est comme regarder la réalité.
C'est à la fois
lire un livre d'histoire et c'est en même temps voir des gens passer devant moi. C'est en même temps voir, des gens en colère, des gens amoureux. Je crois que c'est l'un des romans dans lequel la plupart des passions sont exprimées. Ouais. Et même une passion qui pour moi n'est pas une passion proustienne, qui est la colère. Je le sais parce que j'ai écrit un livre sur la colère, un livre très contemporain sur la colère, et je me suis dit, moi je suis proustien, je vais chercher. J'ai pratiquement rien trouvé sur la colère proustienne. Et finalement, si à un moment, Marcel se met en colère contre Albertine. Donc c'est le roman de toutes les passions.
Thierry Lager, très rapidement, enfoncez le clou aussi si vous le pouvez.
Je crois qu'après après le prix Goncourt, Proust est lancé, il pense à se présenter à l'Académie française, on parle de lui pour le prix Nobel. Alors, il n'était pas traduit en suédois à l'époque, donc peut-être n'avait-il pas beaucoup de chance, mais Albert Thibaudet, qui enseignait là-bas, à Stockholm, ou en Suède, avait beaucoup parlé de lui. Et la seule réserve qu'il faisait, c'était vite, il faut qu'on me couronne avant Sodome et Gomorre, parce que là, ce sera fini. Et une fois Sodome et Gomorre publié, il a été un peu déçu, parce qu'il a dit « Je suis stupéfait de si peu scandaliser. Les gens avalent ça comme une bondieuserie. » Donc, il avait peut-être fini par s'imposer, par imposer son écriture, son monde, ses conceptions et sa philosophie.
Charles Dantzig, si vous pouvez en 20 secondes conclure sur
en
la 20 conclusion.
Secondes, en 20 secondes, d'abord, je trouve qu'outre tout ce que nous avons tous dit, ce qu'il y a de beau, c'est que nous lisons à la recherche du temps perdu pour l'œuvre même et pour ce qu'elle est, c'est-à-dire on voit un objet d'art parachevé, magnifique, et aussi, il y a une lecture assez amusante de la recherche du temps perdu quand on le relit, c'est essayer de deviner Proust sous son œuvre.
Et ben voilà ce que chaque lecteur va pouvoir s'employer désormais à faire. Merci beaucoup à vous trois, Thierry Lager, Michel Herman et Charles Dantzig, de nous avoir donc éclairé sur l'importance de À la recherche du temps perdu. Et on termine cette émission comme chaque jour avec vous, Romain de Bec-de-Lièvre. Bonjour, c'est le moment de votre pièce jointe.
Dans le 31e épisode du Monty Python Flying Circus, l'émission des Monty Python diffusée par la BBC dans les années 70, on trouve un sketch proustien. Oui, proustien, il s'appelle The All England Summarized Proust Competition, traduit grossièrement la compétition inter-Angleterre de résumé de Marcel Proust. Bien avant les gens qui décrivent leur thèse en 180 secondes, les Monty Python ont poussé jusqu'à l'absurde la fièvre résumante qui s'empare de notre temps en inventant ce jeu fou extrait.
Right now, it's time to meet your host for tonight, Arthur Mee.
Good evening and welcome. Well, as Klaus could say, la malheur imaginaire de recondition et de toute sa réunion, c'est bientôt la même chose. Remember, each contestant this evening...
Chaque participant de ce soir aura un maximum de 15 secondes pour résumer À la recherche du temps perdu. Et sur la planche là-bas, vous pourrez voir jusqu'où il est allé. Tout de suite, notre premier concurrent, Mr. Harry Bagot. Le sketch des Monty Python est à la fois un jeu idiot et une parodie des jeux idiots eux-mêmes. Les comiques anglais en ont installé tout le décorum, une scène avec des rideaux rouges, une banderole avec le titre du jeu et des guirlandes de fanions. À la droite du plateau, il y a un proustomètre, c'est-à-dire une règle verticale et graduée qui indique en partant du bas les titres des 7 tomes de La recherche du temps perdu, mais en anglais. On apprend à la volée deux choses étonnantes, que Sodome et Gomorre est traduit pudiquement par « Cities on the Plain », soit « Des villes dans la plaine », c'est parce que le livre de la Bible est classiquement nommé ainsi outre-Manche. Plus étrangement et injustement, Albertine disparue devient « The Sweet Cheat Gone », traduction rapide, « La douce tricheuse disparue ». Toujours est-il que les valeureux participants au concours ont donc 15 secondes et seulement 15 secondes pour résumer le chef-d'œuvre de Proust, ses merveilles, ses finesses et ses beautés. Dans le sketch, trois concurrents se succèdent sur le summarizing spot. La compétition commence mal puisque le premier candidat ne dépasse pas la première page car il choisit de commencer par résumer les enjeux esthétiques de la recherche et donc il perd du temps. Le second participant a quant à lui des trous de mémoire sur le nom de Swann, le voisin du narrateur. Lui aussi perd donc du temps. Pour la troisième tentative, c'est carrément un chœur, The Bolton Choral Society from Bingley, qui débarque sur scène et chante en contrepoint « Proust in his first book wrote about » mais sans jamais finir la phrase. Alors Mathieu, comme la pièce jointe est une heure joueuse oui. Et qu'il ne reste que quelques secondes dans cette chronique, je propose de me prêter à l'exercice. C'est donc parti pour 15 secondes. Accepteriez-vous de me donner un top, Mathieu?
Allez, top!
Au début, le narrateur raconte des scènes de coucher, de l'arrivée de la nuit, l'attente du baiser de sa mère, les chambres de Paris et de Combray, la maison de vacances où il y a le côté de Méséglise ou de chez Swann, le voisin amoureux, et le côté de Guermantes de l'autre, la scène de la Madeleine et la mémoire qui s'ouvre comme une fleur japonaise, les tentes du narrateur qui sont hilarantes de snobisme, les clochers de Martinville.
C'est raté, hein.
Le proustomètre, oui, je pense, indique qu'on ne dépasse pas le côté de chez Swann, c'est donc encore raté, à vous de jouer chez vous.
Bon, enfin, on a quand même eu un tome, c'est pas mal. Merci beaucoup, Romain de Bec-de-Lièvre. Votre chronique, elle est à retrouver sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France, tout comme notre émission. C'était donc Sans oser le demander. Aujourd'hui, nous nous sommes demandé ce qui faisait de La Recherche un très grand moment de À la recherche du temps perdu, évidemment. Pour aller plus loin, quelques livres. Proust, prix Goncourt, une émeute littéraire par Thierry Lager chez Gallimard. Les dictionnaires amoureux de la littérature française, étrangère et au-delà par Charles Dantzig chez Grasset. Et puis Les 100 mots de Proust, par exemple, parmi les livres de Michel Hermant consacrés à l'écrivain. Les 100 mots de Proust, c'est aux éditions des PUF. D'autres références sur notre site.
Un podcast France Culture à écouter sur franceculture.fr et l'appli Radio France.